France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Le Cuivre. Et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Oumabadi. C'est le dernier épisode de notre série consacrée au pouvoir des cartes après les planisphères et méridiens qui ont fabriqué un centre du monde, après le géoint ou les cartes au service du renseignement, après la cartographie de l'actualité. On parle ce matin de cartographie numérique et du mastodonte du secteur, Google Maps, la boussole du profit.
L'idée fondatrice, c'était de parvenir à modéliser le monde, de retranscrire sur le plan numérique ce qu'il se passe dans la vraie vie, jusqu'à la plus petite. Tout a commencé comme ça, avec cette caméra de 200 kilos fixée sur un van.
Ce qui fait de Google Maps une application révolutionnaire, c'est à la fois sa puissance en termes de recherche et sa base de données géographiques infinie. C'est enfin un outil d'exploration capable de vous faire découvrir des endroits dont vous n'auriez pas soupçonné l'existence ou trouvé l'adresse.
Nous faisons sans cesse évoluer notre technologie pour que Maps continue à faire ce qu'il sait faire de mieux, vous aider à vous rendre là où vous le voulez. Google Maps suggère 20 milliards de kilomètres de route chaque jour. Ça fait beaucoup de voyages.
Car la vie est affaire de trajets en périphérie des villes, quelque part dans l'est de la France par exemple. Nicolas Mathieu écrit dans Leurs enfants après eux qu'on va au bahut chez ses potes en ville, retrouver quelqu'un dans le petit parc, on rentre, on part. Pareil chez les adultes, le boulot, les courses, la nounou, la révision chez Midas, le ciné. Chaque désir induit une distance, chaque plaisir nécessite du carburant. À force, on en vient à penser comme une carte routière. Chemin rectiligne, grand carré vert et vide. Petite punaise rouge pour marquer un point d'intérêt. Si nous pensons toujours comme une carte routière, elle n'est plus figée ni bornée par des limites physiques. C'est même la carte routière qui pense désormais pour nous. Parmi toutes les cartes numériques favorisées par l'explosion des données en source ouverte, Google Maps est aujourd'hui hégémonique. Plus de 2 milliards d'utilisateurs chaque mois, des voitures qui ont sillonné, filmé, photographié toute la planète. Maps oriente désormais nos trajets et dans une certaine mesure nos vies. L'omniscience géographique de Google n'a d'égal que son art d'en tirer profit, via notamment les recettes publicitaires que sont prêts à payer les commerces pour apparaître sous la forme d'un clou, mais aussi sa puissance géopolitique, car comment nommer autrement le pouvoir qu'a Google aujourd'hui de tracer des frontières et de baptiser des montagnes, de plaire à Donald Trump en renommant le golfe du Mexique, golfe d'Amérique selon son bon vouloir. Bonjour Mathieu Nouchet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire Passage. Vous avez écrit « Blanc des cartes et boîte noire algorithmique » aux éditions du CNRS en 2023 et plus récemment « Le blanc des cartes » aux éditions Autrement. Bonjour Antoine Courmont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes maître de conférence en urbanisme à l'Université Gustave Eiffel, chercheur au LATS, qui est le laboratoire technique, territoire et société. Antoine Courmont, quand l'entreprise Google a-t-elle commencé à s'intéresser aux cartes et pourquoi ?
Eh bien, Google s'intéresse assez rapidement aux cartes, hein, dans son histoire. Google Maps est lancé en 2005. On fête cette année les 20 ans de Google Maps. Et l'entreprise s'y intéresse notamment parce qu'en fait, ils se rendent compte que sur leur moteur de recherche, leur produit phare, il y a un très grand nombre de requêtes qui sont liées à des logiques spatiales. On va chercher une adresse d'un coiffeur ou alors un restaurant et on veut le localiser. Et cette importance fait qu'ils se disent qu'il y a un enjeu aussi à pas seulement recenser et orienter les personnes dans le monde numérique, mais aussi dans le monde physique et aider en cela à numériser progressivement l'ensemble de la planète.
Les fondateurs disent que 25% des requêtes saisies dans le moteur de recherche étaient une demande de carte. Or, Google n'avait pas de carte à l'époque, donc va se mettre à racheter plusieurs acteurs du secteur et devenir le mastodonte que l'on sait. Un acteur dominant du secteur, la logique est avant tout commerciale, mais pour ce qui est de l'ambition cartographique en tant que telle, Mathieu Nouchet, est-ce que l'idée était d'emblée de cartographier le monde entier ?
Oui, d'emblée, il y a une ambition vraiment d'exhaustivité et de couverture planétaire, puisque le système qui est mis à disposition propose toute une série d'images satellites qui permettent d'avoir, avec une résolution un peu grossière, une première vision du monde. Et puis, dès 2005, on peut zoomer et avoir des informations beaucoup plus détaillées sur d'abord quelques métropoles nord-américaines, européennes, puis très rapidement, ça va s'étendre à l'ensemble de la planète. Et donc, le système va en permanence évoluer pour rajouter des données et des données toujours plus précises et tenter de donner cette illusion de couverture complète, exhaustive et quasi en temps réel du monde.
Vous avez dit à Barthélémy Gaillard pour préparer cette émission que Google s'était inspiré à l'époque d'un court-métrage tourné dans les années 70, Power of Ten. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça a inspiré Google ?
Effectivement, Power of Ten, c'est un court-métrage, c'est 10 minutes, hein, le film est en libre accès sur Internet. Et en fait, c'est un petit film qui nous montre le passage, c'est en fait une sorte de zoom de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et c'est cette idée qu'on puisse zoomer d'une parcelle à un continent et puis qu'on puisse ensuite dézoomer dans l'autre sens, qui va finalement motiver les créateurs de Google ou de l'outil qu'a racheté Google pour lancer Google Maps et Google Earth en 2005. Et c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans tous les globes virtuels hein, qui nous permettent de naviguer dans tous les points du globe et en permanence de nous déplacer de l'infiniment grand à l'infiniment petit en nous donnant l'illusion que ces zooms sont tout à fait fluides. Alors qu'en fait, à chaque zoom, il y a une étape technique, il y a des données différentes, il y a tout un tas de dispositifs techniques qui sont mis en œuvre. Mais le rêve des concepteurs de Google, c'est vraiment de nous permettre de naviguer, de zoomer de façon fluide sur l'ensemble de cette de la planète. Et ça rejoint l'extrait audio que vous avez évoqué, hein, des concepteurs de Google qui perçoivent leur outil comme un modèle du monde et qui ont la conviction que finalement cet outil doit être une sorte de jumeau numérique de la Terre qui nous donne en temps réel accès à l'intégralité du monde jusque dans ses moindres détails.
Pour donner cette vérité de la Terre. Au départ, Google achète des données à des prestataires extérieurs, puis il va envoyer ses voitures équipées notamment de récepteurs GPS pour mettre à jour toutes les données géographiques. Est-ce qu'on a une idée, Antoine Courmont, de comment ça se passe pour couvrir toutes les zones du globe? Il y a des entrepôts avec des voitures Google, y compris en Europe?
Alors, il y a la fabrique hein, des cartes Google Maps, hein, il y a plusieurs, une multitude de sources de données différentes. Hein. Vous avez effectivement les Google Cars qui vont produire un certain nombre d'images et qui vont permettre à Google de devenir indépendant, en tout cas davantage autonome par rapport à des producteurs qui préexistaient auxquels ils pouvaient acheter des cartes ou récupérer des cartes, et notamment des données, et notamment des producteurs publics. Et donc il y a des véhicules qui circulent. Il y a aussi une certaine opacité de la part de chez Google. Hein. On ne sait pas très bien les investissements consacrés pour la production de ces cartes dans le temps. On imagine que c'est des montants considérables, mais on ne sait pas très bien non plus le nombre de personnes qui travaillent sur cela. On sait qu'il y a différents types d'opérateurs, à la fois des conducteurs, mais derrière tout un retraitement qui peut être bien sûr algorithmique, mais aussi manuel, qui est très important pour, à partir de ces photographies de rue, récupérer l'information qui va permettre de connaître une adresse, une enseigne commerciale ou un passage piéton et pouvoir ensuite l'ajouter à la cartographie.
Donc Google a fait ce pari de l'exhaustivité. Est-ce qu'il le tient, ce pari-là? En tout cas, 99% de la surface du globe a été mise en carte par Google à ce jour. 60 millions de kilomètres de routes, 1 milliard de bâtiments, 200 millions de points d'intérêt, que ce soit des commerces, des bâtiments, des sites touristiques, avec cette stratégie dite de vérité sur le terrain, qui consiste aussi à s'appuyer sur les utilisateurs pour participer à la construction de la base de données de Maps, à tel point qu'il existe des communautés d'utilisateurs qui jouent à deviner l'emplacement d'un lieu sur Maps à partir d'une photo sur Google Street View.
Oh, belle montagne. Les barrières en bois, là, bon, c'est la Nouvelle-Zélande avec les poteaux électriques, mais les barrières en bois rapprochées comme ça, c'est principalement l'île du Nord. Et en fait, le fait que ça fasse un espèce de gros volcan sans chaîne de montagnes autour, il y a la mer, bon, je pense que c'est le Egmont National Park, enfin, le mont Egmont. On n'est pas trop loin de la mer. On a même une info. Oroa Memorial Hall. Ah, Oroa, c'est là. Ou alors, Oroa n'est pas du tout écrit là où se trouve vraiment la ville. Du coup, on est devant le Memorial Hall qui est juste ici. Je pense que le bâtiment est mal représenté. Donc, on doit être à ce niveau-là. Si je me place correctement. Ça fait un mètre. Un maître en Nouvelle-Zélande, après avoir reconnu le Egmont National Park. Let's go.
Les géoguesseurs, on les appelle comme ça, c'est une communauté qui s'amuse à deviner l'emplacement d'une photo sur Maps à partir des indices présents sur le cliché. Alors je crois pas, Mathieu Nouchet, que eux participent, entre guillemets, fassent partie d'une sorte de stratégie collaborative pour faire en sorte que ces cartes soient de plus en plus précises et exhaustives. C'est plutôt que c'est anecdotique et amusant de savoir qu'il y a des communautés qui s'amusent à faire ça à peu près toute la journée. Mais quel est le niveau d'exhaustivité aujourd'hui de cette cartographie de Google Maps? Est-ce que c'est une illusion? Parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que tout est aujourd'hui sur Google Maps.
Bah effectivement, on peut avoir le sentiment là d'être un peu noyé sous un déluge de données cartographiques qui sont disponibles. Parce que comme l'expliquait Antoine Courmont, hein, il y a toute une stratégie de production de données de Google, mais il y a aussi par Google la réutilisation de données qui sont en libre accès, en open data, et puis beaucoup de partenariats qui sont lancés. Et comme finalement l'outil a une position quasi monopolistique, bah, il y a beaucoup d'autorités publiques, d'agences de cartographie ou d'entreprises privées qui déposent d'elles-mêmes hein, finalement leurs données géographiques dans le système et qui vont alimenter donc un système cartographique qui aujourd'hui nous met à disposition un volume ultra conséquent de données. Hein. Une des dernières grosses mises à jour de Google Maps, c'était en 2021 avec le service TimeLapse qui a été proposé et qui permet de naviguer dans 24 millions d'images satellites qui ont été compilées pour montrer l'évolution de la Terre vue du ciel depuis 1984. Donc ça représente 20 pétaoctets de données, c'est-à-dire 20 millions de milliards d'octets de données.
Oui, c'est donc même effectivement pas envisageable.
Voilà. Donc à première vue, on est noyé sous ces données. Mais là, il faut avoir un regard critique par rapport à ce qui nous est mis sous les yeux. Et je pense que l'ensemble des émissions que vous avez eues là depuis lundi ont bien montré hein, que la façon dont on cartographie un territoire, c'est éminemment politique. Et donc, il y a une forme d'exhaustivité. Quand on se balade sur Google, il n'y a pas de blanc des cartes, il n'y a pas de zone vide. Mais par contre, il y a des zones qui sont couvertes de façon très détaillée et d'autres de façon beaucoup plus grossière. Et puis, il y a des choix sur les objets cartographiques qui sont mis en évidence. Et derrière ces choix, il y a des intérêts commerciaux ou des intérêts politiques qui sont vraiment nécessaires qu'il est vraiment nécessaire de décrypter.
Vous citez par exemple comme parmi les exemples des pays des Suds surtout qui ont moins de connaissances cartographiques, en tout cas moins d'outils cartographiques ou de moyens pour cartographier leur territoire et qui aujourd'hui demandent à Google de les aider à le faire. Vous citez Madagascar par exemple. Dans le cas de Madagascar, qu'est-ce qui se passe? C'est des ministères, à la fois la puissance publique et des professionnels qui demandent à Google Maps des fonds de cartes pour pouvoir ensuite travailler sur leur propre projet. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quel échange y a-t-il à ce niveau-là?
Alors, il n'y a pas beaucoup d'échanges, mais il y a simplement il y a un institut de cartographie qui n'arrive pas à produire de référentiel cartographique à jour, et donc finalement, par défaut, on va utiliser des grandes bases de données planétaires et des outils planétaires, et donc en premier chef, Google Maps. Donc on voit vraiment dans tout un tas, aussi bien des universités que des ONG que des autorités publiques, que Google Maps devient le référentiel cartographique, l'outil par lequel on passe, faute de mieux finalement. Or, ce que propose Google Maps ou Google Earth sur Madagascar, c'est une vision très particulière de ce territoire. Quand l'internaute se balade au-dessus de Madagascar, il a l'impression d'accéder, par exemple, à des images satellites et à une couverture complète et exhaustive. Sauf qu'en fait, entre la plus ancienne et la plus récente des images satellites qui vous est proposée sous les yeux, vous avez 20 ans d'écart. Et donc, ce qu'on a à faire quand on regarde ces outils, c'est plutôt on a sous les yeux une sorte de patchwork cartographique d'assemblage de données, parce que en fonction des enjeux commerciaux qui sont identifiés par la firme de Mountain View, on va avoir une actualité des données qui va être plus ou moins fine, et on va avoir des données plus ou moins précises.
Donc on peut se balader dans le passé presque.
On peut se balader dans le passé, mais là, ce qui est très marquant, c'est qu'en fait, on a une donnée qui est finalement très hétérogène. Et le visuel qui nous est mis sous les yeux nous donne pourtant l'illusion que c'est une photo qui a été prise à un instant T, alors qu'en fait, c'est un bricolage technique qui nous permet d'accéder à des photos de qualité très, très différente et très hétérogène.
Donc des territoires très inégalement cartographiés, avec une fracture numérique évidente entre les centres et les marges. Antoine Courmont, est-ce que c'est aussi parce que dans certaines régions, certains pays, Google n'espère pas faire beaucoup de profit, en tout cas n'en attend pas? Est-ce que c'est aussi simple que ça?
Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Il y a aussi des territoires qui bougent davantage, où il y a davantage de modifications et donc qui nécessitent des mises à jour plus régulières. Et ça, c'est vrai pour Google, mais c'est vrai pour toute entreprise de cartographie. On n'a pas forcément la même temporalité de mise à jour. Et après, effectivement, Google Maps, ça reste une cartographie qui est portée par un acteur privé, qui a des intérêts économiques et qui a des bassins d'utilisateurs qui sont plus importants plutôt dans les zones denses, plutôt dans certaines zones métropolitaines, dans certains pays. Et donc, on imagine qu'il concentre davantage ses ressources là-dessus. Il faut rappeler que c'est une cartographie mondiale. Donc, typiquement, la France, dans cette cartographie mondiale, c'est un pourcentage vraiment très réduit de nombre d'utilisateurs à l'échelle mondiale. Donc, en France, il y a un certain nombre de priorités, de villes sur lesquelles ils vont concentrer leurs efforts. Paris en premier lieu, ensuite les grosses métropoles régionales et peu à peu, une numérisation qui s'accroît vers des territoires de moins en moins denses.
Et c'est pareil sur le continent africain ou sur ou le continent sud-américain également, Mathieu Nouchet. Est-ce qu'il arrive souvent que Google Maps se lance dans une cartographie précise d'une région à la demande d'entreprises privées qui souhaitent y investir? On a évoqué rapidement mardi le cas du Mozambique, par exemple, avec le GeoInt, mais ça peut être sur le continent africain, ça peut être aussi sur le continent sud-américain.
Oui, ben on a des partenariats qui sont parfois mis en place avec directement avec Google ou avec des prestataires de Google qui fournissent des données, notamment autour des routes, de la cartographie des routes. Je pense par exemple en Amazonie, il y a tout un tas de partenariats qui ont été réalisés parce que des entreprises qui sont plutôt sur des activités de logistique, des entreprises nord-américaines, avaient besoin de référentiels cartographiques pour mener à bien leurs activités. Or, c'est des entreprises qui souhaitent pas investir dans des infrastructures autour des données cartographiques et donc qui finalement se reposent sur Google pour pouvoir mener à bien leur activité. Et donc ça va orienter finalement les choix, à la fois ça va orienter les choix de Google sur les territoires à cartographier en priorité, mais aussi sur les objets qu'on va cartographier. Et on voit que les routes, c'est vraiment un objet central dans Google Earth, Google Maps. Dès qu'on affiche les plans de Google, c'est vraiment l'objet route qui est un objet central, alors qu'il y a plein d'autres objets qui pourraient être cartographiés, mais qui n'ont pas d'intérêt économique et donc qui sont plutôt mis de côté.
Donc ce sont des cartes, Antoine Courmont, qui sont façonnées par des intérêts commerciaux. Même visuellement, c'est une évidence.
Oui, il y a un travail d'un designer américain, Justin O'Bern, qui est assez intéressant puisqu'il analyse l'évolution du design de Google Maps. On ne se rend pas forcément compte en tant qu'utilisateur, mais depuis son lancement, il y a une évolution assez considérable du design. Et dans le design, on voit bien qu'il y a certains objets cartographiques qui ressortent davantage. Et notamment cette question des lieux. Aujourd'hui, que vous ouvrez Google Maps, vous avez tout de suite un certain nombre de pins, de lieux, sur un certain niveau de zoom. Et on se rend bien compte, lui, son analyse, c'est de dire que progressivement, Google est devenu une carte de destination. Son objectif est de vous emmener quelque part. Donc, il a besoin d'avoir des informations sur les modes de transport, les routes, les transports en commun, etc. Mais aussi, surtout, l'adresse du lieu pour vous y emmener.
Donc, des cartes façonnées par des intérêts commerciaux. Est-ce que les espaces naturels, les habitats informels, enfin, qu'est-ce qui est moins visible sur ces cartes-là? Qu'est-ce qu'on voit moins quand Mathieu Nouchet nous disait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas visibles sur ces cartes? C'est quoi en particulier?
Ça peut être assez variable. Après, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Il y a un travail de recherche qui a été fait sur la cartographie par Google des favelas, donc de l'habitat informel au Brésil, et notamment à Rio, donc autour de 2016, et qui promu par Google comme une logique un peu d'empowerment de ces quartiers, de renforcement de leur pouvoir. C'est des quartiers qui étaient très peu, voire pas du tout représentés par les pouvoirs officiels, qui leur niaient un peu leur existence. Et en les cartographiant, Google, en lien avec des ONG, des associations locales, des habitants, mettait en avant le fait que ça leur donnait du pouvoir et un poids politique, quoi. Ils existaient vraiment sur la carte.
Donc c'est un vrai projet qui a été mené à Rio, dans les favelas, comme vous le disiez, en lien avec des associations sur place et des militants.
Je m'appelle José Junior, je suis le fondateur et coordinateur exécutif de l'association Afro Reggae et je suis en train de vivre une expérience unique dans la vie. J'ai été chargé de cartographier les favelas pour qu'elles apparaissent dans le Street View de Google Maps. C'est un projet entre notre association et Google que nous avons baptisé le projet Tanomapa. Bien qu'une bonne partie de la population brésilienne vive dans ces quartiers, les favelas sont invisibilisées. Si vous allez sur Google Maps, leur emplacement est simplement figuré par un espace grisé, comme s'il n'y avait rien à cet endroit. Le projet Tanomapa a justement pour but de sortir les favelas de l'anonymat et de faire la lumière sur elles. Google a compris que le projet n'était pas seulement un projet numérique, qu'il s'agissait d'un projet d'inclusion sociale, pour lequel nous essayons de cartographier un maximum de rues des favelas. L'ambition est même plus large que le social, elle concerne aussi le business, puisqu'elle donne à voir les commerces. Nous apportons de la visibilité aux gens de la favela, ainsi qu'à leurs commerces.
Voilà, il n'y a pas que les quartiers de Los Angeles, Hidden Hills par exemple, où vivent de nombreuses stars hollywoodiennes qui sont invisibles sur les cartes de Google Street View ou de Google Maps. Eux, c'est pour des raisons très précises et ils l'ont demandé à ne pas apparaître sur ces cartes, alors que dans ces favelas où des gens vivent, de très très nombreuses personnes vivent dans certaines conditions, et bien là, il y avait au contraire une demande d'exister. Antoine Courmont, être cartographié sur Google Maps, est-ce que ça a changé quoi que ce soit du quotidien de ces favelas?
En tout cas, c'est bien mentionné hein, dans l'extrait que vous avez passé, hein, c'est que finalement, il y a le business est aussi très important et il y a un certain nombre de travaux de recherche critiques hein, sur cette numérisation de ces quartiers par Google qui mettent en avant que bah oui, forcément, Google privilégie certaines informations, l'existence des commerces qui sont des zones commerciales assez importantes, hein, ces favelas, pour derrière un peu les intégrer dans sa logique aussi de capitalisme de plateforme, de capitalisme numérique, et derrière, bah, ça leur attire des flux, mais aussi potentiellement on peut imaginer que Google pourrait leur vendre de la publicité qui est quand même le modèle économique de Google.
Et est-ce qu'on peut à l'inverse voir des choses plus positives? Est-ce que Google Maps peut aussi contribuer à, je sais pas, les orienter vers tous les services dont auxquels ils ont droit, et là pas forcément à Rio mais également dans des territoires d'Europe de l'Est qui sont d'Europe de l'Ouest plus défavorisés, et notamment en France, orientés vers des services sociaux? Enfin, est-ce que là-dessus des collectivités notamment réfléchissent à un rôle plus social?
Alors, il y a plusieurs points qui sont très intéressants. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est vrai aussi, hein, même dans les pays occidentaux qui sont très bien cartographiés, notamment autour de la question de l'adresse. Aujourd'hui, avec l'essor de l'économie numérique, des services en ligne, si votre adresse n'est pas présente dans ces services de cartographie, et notamment dans Google Maps, eh bien, ça va être très difficile pour vous de vous faire livrer. Vous allez avoir du mal à recevoir vos colis ou des choses comme ça. Et donc, on a tout un ensemble de personnes hein, qui sont mal cartographiées et qui voudraient être mieux cartographiées pour pouvoir y bénéficier. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point que vous évoquez, c'est effectivement, on se rend compte que de plus en plus, notamment les collectivités se sont rendues compte, les administrations publiques, que les usagers, en fait, s'informaient sur les services publics, leurs horaires, leur localisation, etc., via Google Maps, et plutôt que sur les sites internet ou les applications officielles des administrations. Et ça, pour certains, ça peut être une forme de renforcement de l'accessibilité. Hein. Je peux parler avec quelqu'un du département de la Seine-Saint-Denis qui a une population d'origine étrangère qui peut être assez importante, qui ne maîtrise pas forcément très bien la langue française, qui est la langue de l'administration. Et donc, les outils en ligne administratif, hein, la fameuse e-administration, c'est pas toujours simple pour ces personnes-là. Et donc, de pouvoir accéder à de l'information sur le service public via un service numérique grand public comme Google, ça participe en quelque sorte à renforcer l'accessibilité de ces services sur les horaires. Ils peuvent avoir la traduction de la fiche Google Maps, savoir si c'est accessible en transport, les parkings à proximité, etc., etc. Donc, ça peut participer à cela, mais il y a aussi un certain nombre de désavantages et aussi une certaine forme de dépendance de ces acteurs publics par rapport à Google dans leur relation à l'usager.
Et qui transcrit une forme aussi d'absence des pouvoirs publics ou de compter sur les sites et les applications des collectivités, si ce n'est pas possible, ça pose d'autres problèmes. En tout cas, tout à l'heure, dans le focus, on parlera en particulier de comment Google Maps aujourd'hui aide les usagers des transports à Mexico à s'orienter, avec également les écueils de ce type de pratique. On recevra Laure Guimbaille pour en parler. Vous vouliez, Mathieu Nouchet, ajouter quelque chose à ce sujet de ces endroits sur Terre qui sont très mal cartographiés par Google Maps, à la fois les problèmes que ça pose et les problèmes que peuvent éventuellement poser le fait de vouloir au contraire tout cartographier, y compris eux?
Oui, non, on peut donner un autre exemple. Si on regarde par exemple en Guyane française, la façon dont la Guyane est cartographiée, on va se rendre compte encore une fois que le réseau routier est très bien mis en évidence, et notamment la route du littoral, mais par contre on a une très faible cartographie du réseau hydrographique, alors que l'intérieur de la Guyane, c'est essentiellement par ce réseau hydrographique qu'on va se déplacer, que les populations vont se déplacer et vont vivre autour de ces cours d'eau. Donc on voit que là, il y a un choix qui qui a été fait dans la représentation, qui a absolument rien d'évident pour les gens qui vivent et qui habitent ces territoires. Alors malgré tout, effectivement, comme vous le dites et comme l'a rappelé Antoine Courmont, la puissance de ces outils, leur omniprésence sur tout un tas d'objets du quotidien, les rend potentiellement intéressants pour tout un tas de communautés qui essayent de se rendre visibles. Mais pour sortir aussi de cette logique commerciale et de cette dépendance vis-à-vis de Google, il faut aussi noter qu'il y a plein d'autres solutions cartographiques qui existent. Et on peut citer là le cas d'OpenStreetMap, qui est une sorte de Wikipédia de la cartographie.
En source ouverte.
Outil donc, voilà, en science ouverte, un outil complètement libre d'accès et qui permet donc justement à n'importe quelle communauté de pouvoir se cartographier. Ça a été le cas en Guyane, si on reste sur cet exemple, où des quartiers d'habitat informel ont été cartographiés. Il n'y avait aucun intérêt commercial, donc aucun opérateur privé de cartographie qui venait sur ces territoires. Et pourtant, les habitants souhaitaient véritablement que leur espace de vie soit cartographié, notamment pour favoriser la venue des secours. Quand il y a des incendies, que les pompiers puissent avoir une cartographie de ces zones qui étaient restées jusque-là dans le blanc des cartes. Et le choix a été fait vraiment d'aller vers ces outils libres d'accès pour que les données restent aussi la pleine propriété de ces communautés. Que ce soit finalement plutôt un bien commun plutôt qu'une cartographie qui appartienne à une entreprise privée.
Donc un bien commun, la carte numérique peut, sous certaines conditions, être un bien commun. En revanche, est-ce que le fait, nous qui parlons depuis le début de la semaine dans Culture Monde, de ces cartes qui ne sont pas neutres, surtout lorsqu'il s'agit de choisir un cadre, une échelle, un maillage, il se trouve que ces questions-là ne se posent pas pour les cartes numériques qui, entre guillemets, n'ont pas de frontières. Peut-on pour autant parler de cartes neutres? Et est-ce qu'elles nous donnent encore à voir, Mathieu Nouchet, un espace commun à nos sociétés, à une société?
Alors, dans le discours de Google, Google adopte ce qu'il appelle la neutralité algorithmique. En fait, on détourne un petit peu les mots, puisque dans la géographie numérique et dans la cartographie numérique, comme dans les cartes papier, on retrouve exactement les mêmes débats et les mêmes éléments que vous avez eus avec vos précédents invités depuis le début de la semaine. Il y a des choix qui sont faits. Et en particulier, depuis 2013, Google adopte ce qu'on appelle la personnalisation algorithmique. Donc c'est un petit peu comme quand vous allez sur un site de commerce en ligne, hein, vous allez sur par exemple Amazon, vous regardez une bande dessinée, vous achetez un dictionnaire, si vous revenez 15 jours plus tard, il va à nouveau vous proposer la bande dessinée que vous n'avez pas achetée. Google applique les mêmes systèmes au niveau de Google Maps, c'est-à-dire que vous êtes profilé et en fonction de vos centres d'intérêt et des informations que Google recueille sur vous, il va vous proposer des cartes qui vont être adaptées. Et donc, dans cette situation-là, on va avoir une carte qui, effectivement, n'est plus un bien commun, puisque c'est un support qui nous enferme dans des bulles algorithmiques, un peu comme on retrouve dans les réseaux sociaux, hein, autour d'Instagram ou de Facebook, on est enfermé dans des fils d'actualité. Là, finalement, on a une carte qui s'adapte à notre profil, ce qui pose beaucoup de questions et ce qui peut aussi générer des visions du monde très différentes d'un pays à l'autre. Puisque typiquement, quand il y a des litiges frontaliers, on va avoir des représentations cartographiques qui vont être mouvantes sur Google. Mais ces différentes options ne sont pas forcément très lisibles pour l'utilisateur, qui a l'impression que ce qu'il voit ce qu'il a sous les yeux est la carte que tous les utilisateurs de Google Maps ont sous les yeux, alors qu'en fait, les tracés, la toponymie peuvent évoluer en fonction des profils.
Et oui, pour chaque frontière disputée ou pour chaque pays, quand il s'agit de nommer quelque chose, la topographie d'un lieu, Google Maps ne tranche pas et propose des réalités relatives qui varient selon l'adresse du pays dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, quand il s'est agi de renommer le golfe du Mexique golfe d'Amérique et que Google Maps a trouvé que c'était intéressant d'obtempérer au désir de Donald Trump, ça n'a évidemment pas du tout plu à la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.
Están equivocados. Que no se puede llamar a todo el Golfo de México Golfo de América.
Google est en tort. Il ne peut pas rebaptiser comme ça le Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique. Nous sommes en conflit avec Google, nous leur avons écrit une lettre à laquelle ils ont répondu et nous comptons bien poursuivre les échanges. S'il le faut, nous engagerons des poursuites. Nous ne voulons pas qu'aux États-Unis, ils ouvrent l'application et voient l'appellation Golfe d'Amérique, même si ailleurs dans le monde, les utilisateurs verront toujours Golfe du Mexique. Google est en tort.
la présidente mexicaine dans un entretien donné en février dernier. Est-ce qu'il y a de nombreux autres cas de figure, Mathieu Nouchet? Parce que c'est vrai que cette question du Golfe d'Amérique a pris beaucoup de place, mais il y a beaucoup d'autres cas où soit Google Maps a pris la liberté de changer le nom d'un pays, d'un endroit ou d'un quartier, soit a décidé de ne jamais trancher sur les questions frontalières, alors qu'il y a quand même une instance qui s'appelle l'ONU et qui, elle, a tranché sur de nombreux litiges frontaliers.
Effectivement, à chaque fois qu'il y a un litige frontalier, en fait, la position de Google, c'est de dire, en fonction de l'adresse IP, donc de l'endroit où l'internaute va consulter Google Maps, je vais lui proposer une représentation adaptée. Donc, par exemple, entre la Guyane et le Suriname, si on reste sur cet exemple, il y a un litige frontalier au sud-ouest de la frontière. Si je me connecte depuis la France ou depuis la Guyane, je vais avoir un tracé qui correspond à la vision française. Si je me connecte depuis le Suriname, je vais avoir un tracé qui correspond à la vision des autorités du Suriname. Et si je me connecte d'un pays tiers, d'un autre pays, je vais plutôt avoir un tracé qui va correspondre à ce que les arbitrages internationaux donnent actuellement. Donc on voit que finalement l'idée de Google, c'est de se brouiller avec personne pour ne se fermer aucune porte commerciale, mais donc de donner finalement des visions qui vont changer en fonction de l'endroit où on consulte l'information.
C'est le cas, à force de vouloir brouiller personne, on finit par brouiller un peu tout le monde, puisque on entendait la présidente du Mexique n'est pas contente. Il y a eu quand même des différends entre la France et le Brésil liés à Google Maps autour de l'Oyapock, puisqu'il y avait des troupes brésiliennes qui manœuvraient dans la région et qui, sans le savoir, ont franchi la frontière. Ça a déclenché de vives tensions diplomatiques entre les deux États, parce que Google, cette fois, avait mal tracé cette frontière, si j'ai bien compris. Et puis tous les autres exemples que l'on connaît, de par exemple la frontière entre le Maroc et le Sahara occidental qui n'apparaît pas si vous regardez la carte depuis le Maroc, qui apparaît en pointillé si vous regardez depuis l'Algérie, la frontière Inde-Pakistan, on en parlait la semaine dernière, qui est dessinée différemment selon que vous vous trouvez d'un côté ou de l'autre au niveau du Cachemire, etc. Et sur la topographie, Mathieu Nouchet, encore un tout petit mot sur cette histoire, un quartier à San Francisco où Google Maps a changé le nom sans demander la permission à la municipalité.
Oui, mais en fait, c'est dans un long processus de gentrification, tout un quartier plutôt malfamé de San Francisco a été donc rénové et puis est devenu en fait une grande place commerciale. Et finalement, pour essayer d'aller à l'encontre de la mauvaise réputation de ce quartier, les commerces qui ont implanté donc leurs enseignes ont décidé de rebaptiser ce quartier. Google a suivi. Voilà, ils ont été directement voir Google pour leur demander de rebaptiser. Et c'est en fait jamais passé par les autorités publiques, qui sont normalement les seules à pouvoir nommer, baptiser ou débaptiser ou rebaptiser des lieux. Et donc là, on voit en fait les conséquences très directes, c'est que le nom a changé sur la carte, mais ensuite il y a eu toute une campagne de communication et des adresses qui ont changé, alors même que le nom n'était pas validé. Donc on voit comment matériellement, finalement, ce qui est apparu en premier sur la carte, c'est aussi concrétisé sur les territoires.
Ce qui n'a pas plu à la municipalité de San Francisco, mais globalement, Antoine Courmont, la plupart des collectivités, j'ai l'impression que pour beaucoup, elles coopèrent, voire elles considèrent Google Maps comme un outil de politique publique.
Alors, la position des acteurs publics par rapport à Google et Google Maps est très ambivalente. Il y a une forme de crainte, de méfiance, on l'a dit, hein, par rapport à ce pouvoir dominant et du coup de perte de souveraineté en fait sur un certain nombre de relations à l'usager, sur la détermination des flux, sur le calculateur d'itinéraire, hein, qui peut envoyer du trafic sur des quartiers où on souhaiterait pas autant de trafic, etc. Donc il y a des formes quand même de méfiance, voire de critique très forte au sein des collectivités. Et ça depuis au moins une quinzaine d'années, en tout cas sur le cas français. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, tous ces acteurs publics, se rendent bien compte aussi qu'aujourd'hui, pour mettre en œuvre leur politique publique, ils doivent aussi s'appuyer sur ces acteurs privés et notamment sur leurs ressources et leur capacité à toucher des usagers.
C'est ce qui s'est passé à Paris pendant les Jeux Olympiques, par exemple, l'année dernière.
Exactement, hein, sur le cas des transports et parisiens est assez intéressant, notamment sur le cas des Jeux Olympiques. Hein, il y avait l'objectif, c'était des Jeux Olympiques 100% accessibles en transport en commun. Il y avait des plans de déplacement très précis qui ont été édictés. Et il se trouve que ces plans de déplacement, en fait, il y a un certain nombre de lignes qui sont sous-dimensionnées pour absorber tous les flux de visiteurs pendant les JO. Et donc, l'objectif des pouvoirs publics, c'était de rediriger vers d'autres lignes qui n'étaient pas celles normalement priorisées par les calculateurs d'itinéraires, Google Maps, mais les autres également.
Et toutes les collectivités s'y sont mises. Donc, vous vouliez poursuivre à
l'étude. Oui, et donc, en fait, ce qui est très intéressant sur le cas des JO, c'est qu'il y a eu des formes de pression politique, hein, de la part, notamment de l'État français, et que Google, en fait, a accepté de se plier au plan de déplacement mis en place pour les JO, et que pendant le temps des JO, quand vous faisiez certaines recherches sur Google Maps, certaines lignes de métro n'apparaissaient pas. Et donc, il a participé à réorienter les flux.
Parce qu'elles étaient déjà pleines, c'est
ça ? Non, parce qu'en fait, ils ne souhaitaient pas envoyer les flux de voyageurs vers ces lignes de métro, et donc Google a participé à réorienter vers les flux dans un sens aligné avec celui de l'intérêt général, et ce qui a permis en partie au succès en termes de mobilité des Jeux Olympiques parisiens. Donc on voit ici une forme de coopération qui est assez intéressante, puisque c'est des formes de relations qui sont très différentes des formes classiques entre acteurs publics et privés. Il n'y a pas de relation contractuelle proprement dite, mais vraiment c'est de la circulation de données entre l'administration publique et cet acteur privé qui va faire de Google un intermédiaire de l'action publique locale.
Dans tous les cas de figure, est-ce que Google achète des données aux collectivités ou pas nécessairement ?
Alors, Google est très peu transparent sur la manière dont il va récupérer des données. Il se trouve qu'il y a tout un ensemble, notamment sur la question du transport, plutôt des données qui sont mises à disposition en open data et que Google va aller récupérer. Mais le gros enjeu, typiquement, sur cette question d'inégalité de couverture, hein, quand vous êtes une petite ville française, un petit réseau de transport, Google Maps a peu d'intérêt à faire l'effort d'intégrer lui-même ces données, vos données. Et donc, du coup, l'enjeu pour l'État français, c'était d'élargir la couverture sur Google Maps. Et un certain nombre de lois qui vont imposer à Google d'intégrer des données pour élargir la couverture des transports dans Google Maps.
Aujourd'hui, Antoine Courmont, qu'est-ce qui rapporte le plus à Google Maps ? Est-ce que ce sont les recettes publicitaires que paient tous les petits commerces pour apparaître sur la carte en recommandation ? Ou est-ce que ce sont les fonds de carte, les vues aériennes qu'utilisent les grandes entreprises type supermarché, applications d'hébergement, SNCF aussi, ou applications de transport individuel ?
Ouais, ça, c'est un point très important, hein. C'est la logique de plateforme sur laquelle est basée Google Maps. Et ça, c'est vraiment le caractère très novateur qui va participer à sa position dominante. Et cette logique de plateforme, elle est dès le départ, puisque dès 2005, en fait, Google va ouvrir ce qu'on appelle ses API, donc en fait des interfaces qui vont permettre à des développeurs de pouvoir afficher les fonds de carte Google Maps sur leur propre application, sur leur propre site. Et donc ça va faire du fond de plan Google Maps le fond de plan de référence. Ces API qui étaient gratuites ou très largement gratuites en modèle freemium, peu à peu, Google va s'en servir pour monétiser sa cartographie. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'acteurs qui reposent sur ces cartes et qui ne pourraient pas développer leur activité sans avoir accès à cette carte de Google Maps. Donc, comme le dit un Jean-Christophe Plantin qui a beaucoup travaillé là-dessus, aujourd'hui, Google Maps, c'est pas qu'une plateforme, c'est devenu une infrastructure sous-jacente sans laquelle de nombreux services ne pourraient plus fonctionner. Et ça rapporte de l'argent. Donc ça, c'est le premier modèle, mais on ne connaît pas très précisément les chiffres, mais on imagine que l'aspect publicitaire et donc les pins, les annonces sponsorisées dans Google Maps rapportent quand même davantage d'argent à Google que la mise à disposition d'API. En tout cas, à l'échelle globale du groupe Alphabet, la publicité représente 80% de son chiffre d'affaires.
Donc, la publicité représente la plus grosse part de son chiffre d'affaires. La facturation pour les API, elle se fait au nombre de requêtes. C'est le journal Les Échos qui détaillait 2 euros pour afficher 1000 cartes statiques, 7 euros si elles sont interactives, 14 euros pour 1000 accès à Google Street View. En tout cas, on entend bien, mais de toute façon, depuis le début de cette série, la question de nos données personnelles aussi, de ces données Google Maps qui utilisent en permanence notre position pour nous guider et proposer des publicités. Voilà d'autres questions que pose Google Maps. D'autres aimeraient au contraire que Google Maps soit tous les jours à leur côté pour trouver l'âme sœur comme cette chanteuse indienne.
ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਇੰਸ ਕਰੇ ਇਹ ਕਮ
Elle s'appelle Hurt Dillon, c'est une chanteuse indienne et sa chanson s'appelle tout simplement Google Maps. C'était en 2014. À quoi sert Google Maps, dit-elle? Il ne donne jamais l'adresse de l'être aimé. Peu importe les progrès de la science, jamais il ne révèle son emplacement. Je parcours chaque rue pour te trouver, mais je ne te rencontre que là où le destin m'y conduit. Donner l'adresse de l'être aimé, ça ne doit pas rapporter gros à Google Maps, dont la boussole indique plutôt le profit. C'est le dernier épisode de notre série sur le pouvoir des cartes. Google Maps qui capitalise sur sa position d'acteur dominant du secteur des cartes numériques pour s'imposer partout dans le monde. Il est par exemple devenu un intermédiaire incontournable entre opérateurs de transport et usagers dans la ville de Mexico.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Dans la ville de Mexico, mais aussi dans sa gigantesque aire urbaine, Google Maps a travaillé avec des entreprises et applications locales pour cartographier l'immense réseau de transport en commun qu'on appelle concédé, car géré par des sociétés auxquelles les collectivités locales accordent des concessions. Bonjour Laure Guimbaille.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante en sociologie au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po. D'abord, pour bien comprendre comment fonctionnent les transports en commun à Mexico, est-ce que ce sont les mêmes et gérés de la même manière dans la capitale Mexico et au-delà de ses frontières administratives dans son aire métropolitaine?
Alors effectivement, la ville de Mexico, elle s'est énormément étendue ces dernières années, depuis les années 70, et elle a dépassé les frontières administratives de l'État initial de la ville de Mexico pour grignoter d'autres États. Et donc ce qui fait que le système de mobilité qui avait été pensé traditionnellement, qu'on connaît très bien ici en Europe, le métro, les trams, même des téléphériques, en fait, il ne correspond pas à l'aire urbaine de la ville et ne va pas jusque dans les zones les plus reculées de cette métropole. Ce qui fait qu'en fait, il y a un système parallèle de transport concédé qui s'est développé pour répondre en fait à cette demande.
Quelle est la différence entre transport informel et transport concédé?
Alors la différence en fait elle est très légère et mais beaucoup qualifient ce transport d'informel, mais en fait ce sont des bus tout simplement qui peuvent s'appeler aussi les camionnes, qui sont gérés par des entreprises de différentes tailles qui peuvent aller d'une personne à plusieurs centaines et parcourir des trajets de dizaines de kilomètres. Et en fait, c'est des bus, à la différence des bus en Europe, qui ne marquent pas d'arrêt. Donc c'est comme un taxi, on va héler dans la rue pour qu'il s'arrête. Et pareil, pour descendre, ce sera à la demande. Donc c'est ça la petite différence en fait. Et donc les concessions qui sont données par l'État pour à peu près 10 ans, elles définissent un trajet. Mais en fait, depuis quelques temps, il y a un peu une volonté de contrôler, de rationaliser ce transport, puisqu'il est considéré comme dangereux et polluant.
Oui, c'est un transport qui pose pas mal de problèmes. En tout cas, il existe déjà en Amérique latine plusieurs applications qui sont spécialisées dans la cartographie du transport informel, pour le dire vite, de façon générale, et qui permet de calculer, de proposer des itinéraires en dépit des incertitudes, des informations lacunaires, de l'inexistence d'arrêts prédéfinis, comme vous nous le disiez. Pourquoi est-ce que c'est finalement Google Maps qui s'en charge à Mexico?
Alors en fait, c'est effectivement ce transport, il a été très souvent difficilement cartographiable à cause de relations un peu houleuses entre la municipalité et qui voulait donc le contrôler et ce transport. Et donc Google Maps a fait appel face à l'absence de données cartographiques sur ce transport, puisque comme vous le rappeliez dans le début de l'émission, Google Maps a besoin de données fiables, de données actualisées et le plus possible en fait pour correspondre aux pratiques de mobilité des usagers. Donc Google Maps va mandater une entreprise qui s'appelle Where is My Transport, qui est spécialisée en fait dans la cartographie de ce type de transport. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont engager une équipe locale qui va parcourir le réseau de bus avec leur téléphone portable, qui vont envoyer sur une application leur leur adresse géographique en temps réel, et ce qui permettra en fait de cartographier les lignes, d'estimer le temps de trajet total de parcourir la ligne. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, ils ont cartographié 2200 lignes en 8 semaines, ce qui est énorme en fait, chose qui n'avait jamais été faite par ailleurs.
Donc ça, c'est notamment une équipe de Where is my transport, cette application, mais Google Maps aussi a une équipe sur place. Est-ce qu'il y a des discussions notamment avec la municipalité? Est-ce que cette application produit des données? Comment ça se passe pour Google Maps?
Alors, tout à fait, ils ont une équipe locale, mais c'est une équipe locale plutôt de relations publiques.
Avec la mairie?
Avec l'ensemble des villes du continent. Donc ce qui se passe, voilà, c'est qu'ils vont intégrer ces données, mais se pose en fait la question pour eux de la mise à jour, en fait. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est d'avoir les données les plus fiables, les plus actualisées. Et en fait, comment est-ce qu'on actualise? Ça coûte très cher, en fait, d'envoyer 60 personnes sur le réseau tous les jours pour être sûr que le bus passe toujours. Donc, en fait, ils se sont intéressés aux données que produisait déjà la municipalité, qui, elle, avait des GPS dans les bus. Et donc, ils ont voulu... la municipalité n'arrivait pas à les traiter, n'avait pas les moyens techniques, en fait, pour le faire, et les utiliser, en fait, pour d'autres usages que la cartographie. Et du coup, ils ont proposé de les traiter gratuitement, mais en échange de l'exclusivité. Sauf que pour la ville de Mexico, c'était pas forcément entendable, puisque plus être propriétaire de ces données, c'est un petit problème quand même pour un acteur public. Et surtout qu'ils sont une politique très pro-open data, pro-partage des données à l'ensemble pour que tout le monde puisse les utiliser et qu'il y ait d'autres usages, pas seulement les applications de mobilité, mais les étudiants, mais les urbanistes, voilà, qu'il y ait plus d'autres usages.
Et vous racontez, par exemple, dans vos travaux, Laure Guimbaille, que pour le transport structuré, la ville de Mexico publie sur son site, sur son portail de sources ouvertes, tous les fichiers de données dont ont besoin ces applications pour fonctionner. Ça se fait même en coopération, parce que la municipalité, elle prévient les applications en amont à chaque fois qu'elle publie un fichier réactualisé pour qu'elle soit prête le jour du lancement. En revanche, pour le transport concédé, comme vous le disiez, c'est plus compliqué. Et là, il y a eu vraiment des tensions avec Google Maps. Est-ce que les infrastructures de Google Maps, son cadre, ses expériences dans le monde entier lui ont donné toutes les clés pour s'adapter aux subtilités locales, parce qu'à Mexico, on ne se déplace pas comme dans toutes les villes, notamment occidentales, pour le dire vite.
Oui, tout à fait. Ils ont dû effectivement, ça c'est une modification qui ne s'est pas faite qu'à Mexico, mais qui s'est faite au niveau mondial, créer un nouveau standard, c'est-à-dire le standard pour tout le type de transport. C'est un standard qui s'appelle le GTFS. Et en fait, ils ont dû en créer un spécial, différent pour ce type de transport, qui intègre notamment le fait qu'il n'ait pas d'arrêt, parce que le fait de ne pas avoir d'arrêt, ça permet pas, c'est difficile pour l'algorithme de Google pour calculer le temps de trajet. Si on n'a pas d'arrêt, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre.
Il y a aussi que des rues sont à sens unique,
oui,
mais dans la journée, le sens peut
changer. C'est une spécialité de la ville de Mexico, effectivement. Il y a des rues qui changent de sens, des sens interdits qui changent de sens selon pour correspondre en fait au déplacement pendulaire. Et ça, Google ne connaissait pas forcément en Europe ou en Occident.
Il a même cru que c'était une erreur au départ.
Oui. C'est ça. Ils corrigeaient le trajet des bus, ils leur faisaient faire des tours de pâté de maison. Ouais.
Donc finalement, de manière générale, est-ce que ça marche? Est-ce que ça a amélioré le quotidien des dizaines de milliers de Mexicains qui doivent prendre les transports chaque jour? Cette coopération entre Google Maps, d'autres applications, et parfois avec des tensions quand même, mais parfois la municipalité?
C'est difficile d'avoir un retour exact en fait sur ça, parce qu'on n'a pas forcément les chiffres ou les données ou une enquête qui a été faite là-dessus. Mais en fait, ce que ça a permis d'apporter, c'est effectivement une vision sur l'ensemble du territoire. Comme je le disais en introduction, la ville de Mexico est sur plusieurs états, et en fait, il n'y avait pas forcément le même accès à cette information que d'autres. Et donc voilà, ça a permis pour tous les usagers d'avoir accès à, de savoir les lignes en fait, dans des endroits plus reculés qu'ils ne connaissaient pas forcément.
Parce que les autorités publiques des différents États n'arrivaient pas à se coordonner pour produire une information fiable, précise. Donc c'est là que Google Maps est intervenu. Sauf que vous le rappeliez tout à l'heure, le transport informel est aussi une nuisance, pollution, accident, manque de sécurité à bord. Qu'est-ce que ça change, l'existence d'une cartographie de la normalité avec le A privatif, un transport anormal?
Et ça peut changer. Il y a beaucoup d'enjeux qui peuvent en ressortir. C'est que, en fait, effectivement, il faut comprendre que parallèlement, la mairie, elle est en train de faire un programme de modernisation et de rationalisation. Donc, savoir connaître la fréquence, connaître les tracés, ça peut permettre en fait de planifier tout simplement un métro qui passerait par ici ou un bus. Et comme ça, ce serait la solution en fait pour le faire disparaître. C'est ce qui se passe actuellement.
Donc, c'est plutôt le faire disparaître, l'objectif.
Voilà. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est double à la fois que pour les petites lignes qui seraient les moins rentables, il reste cette forme de transport informel, mais que pour les lignes qui traversent la ville, soit voilà, de manière plus structurée.
Merci Laure Guimbaille, vous restez avec nous. Vous allez sans doute avoir quelque chose à dire avec Antoine Courmont sur ces transports à Mexico, que vous connaissez un petit peu. D'ailleurs, vous avez un petit peu étudié la question. Quel intérêt trouve Google Maps à travailler sur le transport concédé de Mexico? Quelle recette publicitaire, notamment, ça génère pour Google Maps?
Google veut intégrer le maximum d'informations parce qu'il y a des utilisateurs qui sont des consommateurs de sa cartographie. Donc, c'est vrai, hein, sur ces grosses métropoles où il y a un habitat, où il y a un transport informel assez important. Donc c'est principalement ça. C'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Il veut produire le meilleur service pour eux.
Est-ce que ce travail que vient de décrire Laure Guimbaille se fait aussi dans d'autres villes et agglomérations en ce moment? Vous en avez connaissance?
Tout à fait. Hein, dans beaucoup de villes du Sud, Google intègre des données maintenant sur le transport informel avec, selon les mêmes logiques, donc c'est des bassins de consommation qui sont assez importants pour lui. Et ce que je trouve aussi très intéressant, hein, sur l'exemple qu'a présenté Laure Guimbaille, c'est que cette cartographie qui est à la fois globale, standardisée, s'adapte, hein, sur des spécificités locales, mais aussi à des effets très locaux. Et au point qu'aujourd'hui, hein, Google Maps, hein, peu à peu, est devenu un véritable urbaniste qui va représenter les territoires, hiérarchiser les lieux et déterminer les flux de personnes au sein des villes, ce qui a un impact considérable sur les territoires.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous dans ce dernier épisode de Culture Monde sur la cartographie. Merci Laure Guimbaille. Je rappelle que vous êtes doctorante en sociologie au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po. Merci beaucoup Antoine Courmont, maître de conférence en urbanisme à l'Université Gustave Eiffel, chercheur au Laboratoire Technique, Territoire et Société, le LATS. Et merci Mathieu Nouchet qui était avec nous depuis Bordeaux. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Blanc des cartes au pluriel et Boîte noire algorithmique, paru aux éditions CNRS. Et plus récemment, Blanc des cartes tout court, aux éditions Autrement. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Au Mali, Catherine, les terroristes maintiennent la pression sur la junte au pouvoir à Bamako.
Attaque sur le terrain et guerre de communication. Alors que le Mali vient de célébrer le 65e anniversaire de son indépendance, le chef de la junte, Assimi Goïta, a présidé une parade grandiose dans les rues de Bamako. Salut le quotidien malien Infomatin et Mali Actu. Assimi Goïta a également affirmé contenir la menace terroriste et vanté le rôle de l'armée malienne dans la sécurité et la stabilité régionale, rapporte Mali Jet. Mais cette fête a été troublé par la réalité du terrain. Des djihadistes du Djenim affiliés à Al-Qaïda ont publié une vidéo de 20 minutes montrant leurs otages, une soixantaine de soldats maliens et burkinabés qui donnent dans cette vidéo leur nom, leur numéro de matricule ou leur rang au sein de leurs armées respectives, décrivent Jeune Afrique, Africa Radio et Dakar Actu. Cette vidéo intervient alors que l'armée malienne a récemment traqué des terroristes dans la région de Kidal, dans le nord du Mali, mais aussi dans l'ouest du pays, dans le secteur de Diéma, indique le quotidien malien L'Essor et l'ORTM, la télévision publique malienne. Cela fait plus de 10 ans maintenant que le Mali, pays sahélien de 25 millions d'habitants, est confronté au terrorisme et à l'instabilité politique, rappelle The Conversation, si bien que près de 400 000 Maliens sont déplacés à l'intérieur du pays et près de 9 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont besoin d'aide humanitaire.
Et les terroristes se lancent dans une guerre économique contre Bamako.
Routes bloquées, camions incendiés, entreprises attaquées, le Djenim ouvre un nouveau front au Mali, alerte Infomatin et Jeune Afrique. Une opération inédite et révélatrice de la nouvelle stratégie des terroristes qui veulent asphyxier les poumons économiques du pays tout en contraignant les forces armées maliennes à se disperser, analyse Jeune Afrique. Des soldats ont par exemple dû escorter une trentaine de camions citernes et des véhicules civils en provenance du Sénégal et à destination de Bamako, raconte Mali Jet. Seule la présence de soldats a permis aux chauffeurs de rejoindre la capitale sains et saufs. Alors que d'autres camions citernes en provenance du Sénégal ont été attaqués et incendiés il y a 10 jours sur l'axe Kaï-Bamako, rapporte le journal du Mali. Bref, un coup dur pour le pays enclavé, souligne l'économiste Modibo Mao Makalou, interrogé par Africa News.
33% de tout ce que le Mali achète comme biens et services à l'extérieur, c'est du carburant et ses produits dérivés. Donc le Sénégal est une importante source de ravitaillement de notre pays, de même que pour le ciment. Donc nous sommes privés un peu de cela maintenant par ces groupes armés terroristes.
Personne n'est en sécurité. Civils et étrangers sont pris dans cette escalade des violences au Mali, alerte Al Jazeera. Et ce, malgré la présence d'Africa Corps, les anciens mercenaires russes de Wagner, dont certains règlent leur compte avec des soldats maliens qualifiés d'incompétents, révèle Jeune Afrique. Aujourd'hui, la Chine met en garde ses ressortissants qui travaillent au Mali, car les terroristes du Djenim lèvent des fonds grâce à des taxes et au contrôle du commerce de l'or et du bois. Ils tentent d'établir des systèmes de gouvernance alternatifs dans les zones qu'ils contrôlent. Ces actions détériorent le tissu économique au Mali. 11 Chinois ont été enlevés cet été, explique le site d'information Guansha, basé à Shanghai. Le Mali face à une hydre aux 1000 visages, écrit un journaliste de l'Inter de Bamako, prenant moult précautions oratoires, alors que la junte au pouvoir au Mali muselle les voix critiques, rappelle Civicus Monitor. Ce journaliste de l'Inter de Bamako explique qu'à son humble avis, les politiques devraient construire des écoles, des dispensaires, assurer un accès à la justice dans les zones les plus reculées du Mali, car c'est en améliorant le quotidien des gens que l'on coupe l'herbe sous le pied des terroristes.
Enfin Catherine, la dernière partie de votre revue de presse concerne le Brésil et ces femmes autochtones qui réinventent le cinéma.
Et qui change le regard des communautés indigènes sur elle. Gros plan donc sur Rede Catayerine, un réseau, une constellation de femmes, pour le traduire précisément, qui fête ses 3 ans cette année, raconte America Futura. Ce réseau connecte, forme et soutient des femmes cinéastes autochtones au Brésil, précise la Folia de São Paulo, et elles sont 89 aujourd'hui, des novices comme des personnalités confirmées, telles que Tsai Surui, dont le documentaire The Territory a notamment été primé à Sundance. Toutes ces cinéastes indigènes racontent leurs histoires, précise El País. Et l'intime peut aussi s'inscrire dans une lutte collective. El País cite le cas de 11 femmes de l'ethnie Chawadawa dans l'état brésilien de l'Acre qui ont décidé de protéger leurs terres en Amazonie des intrus et rouvrir des chemins de leurs territoires autochtones. Nous n'avions jamais marché comme ça, au milieu de la jungle. Nous dormions parmi les serpents et les panthères, sous la pluie, sans assez de nourriture, raconte dans Amélie Erika Futura, 3 femmes désormais membres du réseau Catayerine. Les hommes ont d'abord tourné leur tentative en ridicule, mais ils ont changé d'avis en voyant leur documentaire bientôt montré partout au Brésil, explique Catilane Chawadawa. À 19 ans, indique El País, cette jeune autochtone est devenue une figure clé de sa communauté.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain, comme chaque vendredi dans Culture Monde, vous retrouverez Mélanie Chalandon et ses invités avec une table ronde d'actualité consacrée au Liban. 1 an après la mort d'Hassan Nasrallah, les défis du désarmement des groupes armés, dont le Hezbollah, avec Agnès Levallois et Karim Émile Bitard. Cette table ronde d'actualité sera précédée d'un retour d'eux avec la journaliste Clotilde Ravel qui était en Namibie pour la revue 21 pour parler des pionniers du pétrole. Dans un instant, les Midi de Culture.